du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre magazine Présence Midi en direct jusqu'à 13h. Nous sommes très heureux de vous accompagner durant cette période estivale. Ensemble au sommet, c'est l'histoire d'un Tarbé, Michael Genet. Il a 35 ans, il a gravi l'Everest. Il a ensuite eu l'idée de gravir d'autres sommets en amenant des personnes en situation de handicap. Et son prochain défi, emmener des personnes en situation de handicap en haut du Kilimandjaro à plus de 5000 mètres d'altitude. Et ce défi, c'est dans quelques jours, fin août, qu'il va le relever. Il sera avec nous pour nous en parler au micro d'Anne-Rose Jankovic. Et puis dans cette émission, on écoutera, on recevra Cécile Bourdet-Daguerre, qui est membre de l'équipe du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Elle va nous expliquer la mission du Prado et quel est son engagement aux alentours de 12h15. Et puis dans cette émission, nous partirons sur les chemins de Saint-Jacques grâce à Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. Voilà pour les grandes lignes du sommaire de ce Présence Midi qui débute avec l'essentiel de l'actualité régionale avec les titres qui sont présentés par Clémence Roux.
Bonjour à tous. Dans le Tarn, une maladie qui touche les moutons et les bovins continue de progresser. Une vingtaine de foyers ont déjà été repérés dans le département. En Haute-Garonne, les camions en surcharge sont davantage surveillés. Des capteurs permettent désormais de peser les poids lourds directement pendant leur passage. Et demain soir, une éclipse solaire sera visible dans la région. Plusieurs rendez-vous sont organisés autour de Toulouse pour observer ce phénomène rare. À Montauban, l'écluse de Sapiacou vient de réouvrir, une première depuis plus de 100 ans, qui permet de relancer la navigation sur cette partie du Tarn-et-Garonne. Également dans l'actualité, les tigres du platane sont particulièrement nombreux cet été en Béarn et en Bigorre. Ces petits insectes blancs ne présentent pas de danger important pour l'homme. Et enfin, à Lourdes, l'exposition Carnet de voyage ouvre ses portes demain. Elle sera accessible gratuitement jusqu'au 16 août. Voilà pour les titres de l'actualité régionale.
Merci Clémence Roux, à tout à l'heure à midi et demi pour développer ces titres dans le journal régional. Allez, dans un instant, on va s'intéresser au Prado avec Cécile Bourdet-Daguerre, qui est membre de l'équipe du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Elle va nous expliquer la mission du Prado au micro d'Anne-Rose Jankovic. C'est dans 30 secondes.
Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence.
Bonjour Cécile Bourdet-Daguerre.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes membre de l'équipe de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Vous êtes correspondante de cette équipe. Vous allez nous expliquer à quoi ça sert une équipe de laïcs du Prado. Qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous partagez dans cette équipe. D'abord, on va revenir un peu à la source, si je puis dire. Le Prado, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Prado, c'est une entité spirituelle qui a été créée par le Père Chevrier au XIXe siècle, et au départ pour des prêtres. Mais dès le début, le Prado, ça a été créé à Lyon, et ça s'adressait aux enfants, et aux enfants qui étaient dans les rues, aux enfants qui étaient employés très jeunes dans les ateliers de soierie, et donc qui était très isolée. Donc cette spiritualité, elle a été très importante et les prêtres du Prado se sont toujours engagés dans un schéma de pauvreté, d'abandon au Christ. Et alors qu'au départ, le père Chevrier, il était d'une famille qui n'était pas pauvre, qui n'était pas...
plutôt bourgeoise,
plutôt
oui.
Plutôt bourgeoise, voilà, oui.
Et donc, en fait, l'objectif, c'était d'encourager des prêtres ou de proposer à des prêtres de s'engager dans un ministère au milieu du monde ouvrier pour apporter la parole de Dieu dans ce monde ouvrier, c'est ça ?
Voilà, pour être vraiment des témoins du Christ en monde ouvrier et pour... pour eux, comme pour nous, évidemment, c'est être témoin du Christ, c'est être avec les plus pauvres et vivre comme les plus pauvres avec eux. C'était au milieu du 19e siècle.
Au milieu du
19e... C'est à peu près à la même époque que Bernadette Soubirous, il a vécu.
Donc, au milieu du 19e siècle. Ouais. Et depuis, eh bien, d'autres prêtres, et de plus en plus nombreux, sûrement, ont voulu suivre cet exemple et s'investir, s'engager. Dans notre diocèse de Tarbes-et-Lourdes, on a plusieurs prêtres, hein,
grâce à eux qu'on a connu le Prado et qu'on a pu démarrer les laïcs du Prado dans le diocèse.
Voilà.
C'est à leur appel.
Alors eux sont plutôt engagés, enracinés dans le monde rural.
Alors, il y en a dans le monde rural, mais il y en a aussi dans le monde ouvrier. Vous avez encore le père Paul Ginesté qui habite ici, à présent qu'il est à la retraite, qui est au Prado et qui était en assez, plutôt milieu ouvrier, qui était prêtre ouvrier. C'est-à-dire, ils ont toujours leur engagement diocésain, ce sont des prêtres diocésains, mais ils ont prononcé des vœux au Prado. Et ils se retrouvent donc à peu près une fois par mois pour partager leur vie. Et puis il y a différentes actions de spiritualité. Ils ont des retraites, ils ont des temps de remise à niveau. Il y a même un séminaire. Il y en a certains des prêtres du diocèse qui ont fait leur séminaire au Prado à Lyon.
Voilà, alors ça c'est pour les prêtres, mais ouais. Assez vite en fait après la fondation du Prado par le père Chevrier, des laïcs ont pris le mouvement, sont entrés dans ce mouvement-là d'une autre manière, mais en tous les cas avec cette spiritualité du Prado. Est-ce qu'on peut parler d'une spiritualité du Prado ? On peut dire qu'il y a une spiritualité du Prado ?
Tout à fait, il y a une spiritualité du Prado qui est basée, c'est assez facile à se repérer, sur la crèche, la croix et le tabernacle. Voilà, donc c'est être pauvre comme Jésus quand il est arrivé dans le monde, c'est... vivre jusqu'à la croix, être crucifié comme lui, et puis se laisser manger comme dans l'Eucharistie. Voilà.
Alors vous avez, Cécile Bourdeux-Daguerre, vous avez rejoint une équipe de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Ces équipes de laïcs du Prado, il en existe, j'imagine, un petit peu partout en France ou dans pas mal de diocèses. Qu'est-ce qu'on y vit dans une équipe Comment on rejoint cette spiritualité avec la crèche, la croix et le tabernacle dans une équipe laïque du Prado?
Oui, alors en fait, le Prado, c'est à présent une famille. Parce qu'il n'y a pas que des prêtres, il y a aussi des religieux, il y a des religieuses, il y a des laïcs consacrés. Et il y avait, comme vous avez dit, depuis le début, il y a eu des religieuses, il y a eu donc tout ça. Mais les laïcs en tant que tels, jusqu'à présent, ils n'étaient pas reconnus comme une branche de la famille.
Ils étaient là, mais pas reconnus comme une branche de la famille.
Depuis toujours. Et alors, en 1997, il y a commencé à avoir une démarche pour qu'ils soient constitués en tant que laïcs du Prado.
D'accord.
Voilà. Et dans le diocèse, il n'y en avait pas. Mais dans les années 2000-2002, les prêtres du Prado, qui étaient donc très nombreux dans le diocèse à ce moment-là, on fait appel à un certain nombre de laïcs qui connaissaient parce qu'on travaillait avec eux dans le cadre du ministère. Alors moi, par exemple, c'est dans le cadre du CCFD, Terre Solidaire.
Ouais.
que je les ai bien connus. Et donc, ils ont, ceux qu'ils avaient repérés, qui pouvaient, pour qui cette spiritualité pouvait être importante, ils nous ont réunis, puis ils nous ont parlé de la spiritualité, et on a constitué une première équipe, donc en 2002. Et à présent, il y a 3 équipes hein, du Prado, de laïque du Prado sur le diocèse.
Donc réparties dans quel coin?
Alors,
du diocèse?
Il y a une équipe donc, qui est basée sur Tarbes, qui est l'équipe de départ, mais d'où on ne vient pas que de Tarbes. Et puis il y a une équipe sur Lourdes, Vallée des Gaves, Lourdes-Argelès, et puis il y a une autre équipe, Lannemezan-Baronnie.
Voilà, donc 3 équipes. Dans chaque équipe, il y a combien de personnes?
Une dizaine à peu près. Voilà, une dizaine de laïcs et un prêtre accompagnateur. On a encore la chance, ce qui n'est pas partout en France le cas, d'avoir un prêtre du Prado qui puisse accompagner nos équipes.
Avec des rencontres donc qui sont très régulières et toute l'année?
Voilà, alors donc on a des rencontres, oui voilà, on doit avoir une rencontre une fois par mois en période, sauf pendant l'été. Et puis alors après, on a par année une récollection qui est proposée au niveau du Sud-Ouest. Pour nous, la région, c'est la région du Sud-Ouest, donc une récollection pour les laïcs. Alors cette récollection a la particularité d'être préparée à tour de rôle par un diocèse différent, donc ce qui lui donne un esprit, puis ce qui nous permet de partager nos réalités. Voilà. Et puis, il y a aussi, depuis, alors là, ça fait un peu moins de temps, mais ça doit commencer à faire presque une dizaine d'années, une retraite pendant l'été qui est proposée aux laïcs. Et donc, toujours pareil pour le Sud-Ouest. Mais bon, la retraite, elle est ouverte plus largement que le Sud-Ouest, parce qu'il y a plusieurs retraites comme ça pendant l'été proposées pour des laïcs. Et donc, suivant nos disponibilités, peut aller éventuellement dans une autre région.
Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous a touché, interpellé dans cette spiritualité? Pourquoi vous avez rejoint une équipe de laïcs du Prado? Qu'est-ce qui fait que dans cette spiritualité-là que vous nous avez expliqué, la crèche, la croix, le tabernacle, qu'est-ce qui vous touche là-dedans?
Alors, pour moi, j'ai toujours beaucoup œuvré en pastoral. Et donc, œuvrant en pastoral, j'ai toujours cherché à avoir un approfondissement spirituel pour moi-même, pour pouvoir accompagner les gens. En particulier, j'accompagnais beaucoup les jeunes, donc pour pouvoir le faire, pour moi, c'était très important d'avoir une recherche. Alors, j'ai participé à plusieurs groupes au long de ma vie. Puis là, dans les années 2000, j'avais plus rien qui me correspondait. Et j'étais vraiment en recherche. Et comme j'étais très engagée au CCFD, et donc avec les prêtres du Prado, et puis que le CCFD, pour moi, il y a 2 choses très importantes. C'est cette attention et ce partenariat avec les pauvres, mais pauvre qui n'est pas simplement au sens de la richesse, c'est les gens pour qui le plus important, c'est une vie en communauté, et puis c'est une vie en aidant les autres à être eux-mêmes, et eux-mêmes avec d'autres, sans écraser les autres, sans... Oui. Et voilà. Et donc,
vous avez été touché par ça, quoi.
Enfin, donc c'était pour moi...
C'était votre désir.
C'était une spiritualité qui prenne ça en charge. C'était très important. Après, il y a toujours eu l'étude de l'Évangile et de la Bible. Enfin, ça aussi, c'est...
Oui, parce que dans une équipe de laïcs du Prado, quand on se retrouve, c'est autour de l'Évangile. C'est l'Évangile qui rassemble. C'est le partage de l'Évangile.
Alors, il y a le partage un peu de nos vies, de nos vies personnelles.
Il y a une vie fraternelle.
Ouais. Et puis, alors ça se situe toujours autour d'une lecture d'Évangile. Donc on a choisi à l'avance, et on le sait, quel est l'Évangile qu'on va travailler le jour où on se rencontre. Donc,
mais ça, c'est toujours, il y a toujours l'Évangile
dans vos rencontres. Il y a toujours
le
partage d'Évangile, oui, toujours.
Et alors justement, pour rejoindre ce que vous disiez juste avant, comment l'Évangile répond à cette quête que vous aviez de trouver un lieu ou un engagement qui puisse vraiment rejoindre cette dimension d'attention aux pauvres?
Oui.
Alors, comment dans l'Évangile, vous trouvez les réponses à ça?
Alors, dans dans l'évangile, donc ce que je vous disais par rapport au CCFD, il y avait ça, et il y avait le fait que dans le CCFD, c'est une collégialité, et une collégialité où on est issus très différents, puisqu'il y a les scouts et les guides, il y a les aumôneries, ouais. Il y a l'action catholique, et des milieux indépendants, il y a l'enseignement catholique, il y a... Alors, et tous ensemble, on arrive à faire église. Et pour moi, le CCFD, ça a été vraiment une révélation de ce que pouvait être l'Église, quoi, ce que pouvait être l'Église aujourd'hui. L'Église, c'est chacun de nous avec sa réalité, et voilà. Et donc, là, quand on fait le partage d'Évangile au Prado, c'est la même chose. On va partir de l'Évangile, alors, et cet Évangile, on va l'étudier, on va le remâcher, le relire. Moi, je sais que j'aime bien l'écrire, je le réécris comme ça, je souligne, puis enfin, avec un vis-à-vis, je mets mes réflexions. Et dans ces équipes du Prado, on a tous, finalement, des engagements. Alors, soit des engagements dans la vie sociale, en plus de son métier, ou à présent, quand on est retraité, on n'a plus de métier, mais aussi des engagements en église. Il y en a beaucoup. Bon, moi, je vous l'ai dit, j'étais engagée dans la pastorale. Il y en a d'autres qui étaient engagés en action catholique. Il y en a qui étaient, enfin, qui sont engagés dans leur paroisse pour les défunts.
Donc chacun votre expérience, voilà. Vous recevez aussi l'évangile ou voilà. Vous l'accueillez avec vos sensibilités, vos expériences. Quoi.
Voilà, et donc c'est ce qui enrichit notre partage, parce que chacun, du coup, témoigne à un exemple dans le vécu du mois de ce que lui a révélé cet évangile.
Et donc, au quotidien, en dehors de ces rencontres avec votre équipe, comment vous mettez l'évangile au cœur de votre vie quotidienne ?
Au cœur de la vie quotidienne, moi, je crois, comme je vous l'ai dit, l'appel du Père Chevrier, c'est un appel à une certaine pauvreté. Alors, on parlerait pas de pauvreté, ben on parlerait plus de pas
de simplicité,
d'une vie à présent équitable pour tout le monde, de pas gaspiller, de pas... Alors tout ça, c'est au cœur de la vie quotidienne et pour nous.
Comment on fait pour rejoindre une équipe laïque de Prado?
Il suffit de venir et de voir.
C'est ouvert à tous.
C'est ouvert absolument à tous.
Quel que soit son âge.
Quel que soit son ancienneté dans la foi. C'est totalement ouvert.
Alors peut-être qu'on pourra indiquer sur le site du diocèse catholique 65.fr les coordonnées, le numéro à composer pour pouvoir vous rejoindre. Un dernier mot, Cécile Bourdeau-Daguerre, puisque c'est l'année du jubilé de l'espérance qui va bientôt s'achever, mais enfin il nous reste encore quelques semaines. Pour vous, parce que j'imagine que depuis le temps que vous êtes dans cette équipe laïque du Prado et que vous mettez le nez dans l'évangile, il y a certainement un passage de l'évangile qui vous parle d'espérance, qui vous évoque le mieux l'espérance. Quel serait-il ce passage de l'évangile qui vous tient vraiment à cœur et qui vous parle d'espérance?
Je ne sais pas si j'arriverai à dire un passage d'évangile. Moi, je pense que tous les passages d'évangile révèle Jésus dans le monde, Jésus qui s'est fait le petit pauvre, qui a donné sa vie jusqu'à la crucifixion. Enfin, chaque fois on retrouve cette espérance qui est notre foi, mais qui est notre foi malgré toutes les vicissitudes, malgré nous avons beaucoup travaillé sur ce thème de l'espérance et en particulier, on l'a travaillé nos deux dernières retraites à travers Saint Paul.
Oui.
Et moi, je sais que, par exemple, ça m'a fait découvrir un Paul que j'imaginais pas comme ça. Enfin, j'avais plein d'idées préconçues sur Paul et... Là, j'ai découvert vraiment quelqu'un qui n'était pas l'homme seul que j'imaginais, et puis et puis les premières communautés, la vie des premières communautés, qui n'a pas été facile, qui ont eu des difficultés au moins aussi énormes que celles qu'il y a actuellement dans le monde. Et malgré ça, eh ben, le christianisme s'est développé, etc.
Donc il y a toujours une place pour la bonne nouvelle.
Ah oui, ça, oui.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile Bourdeau-Daguerre. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui de cette équipe des laïcs du Prado. Il y en a quatre dans le diocèse de...
Trois dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes.
Trois équipes de laïcs du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Et la porte est ouverte à tous ceux qui veulent, avec vous, se plonger dans la parole de Dieu et dans ses évangiles. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà pour la rediffusion de cet entretien, émission enregistrée en janvier dernier. Merci à Anne-Rose Jankovic et à Cécile Bourdeau-Daguerre, donc membre de l'équipe du Prado dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va écouter l'histoire d'un Tarbais, celle de Michael Genet. Il a 35 ans, il a gravi l'Everest. Il a ensuite eu l'idée de gravir d'autres sommets en amenant des personnes en situation de handicap. Et son prochain défi, à la fin du mois d'août, c'est amener des personnes en situation de handicap en haut du Kilimandjaro à plus de 5000 mètres d'altitude. On écoute son histoire dans 3 minutes. There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. La voix de Tracy Chapman à 12h25. Bon appétit avec nous. Je vous rappelle que ce samedi, à partir de 10h, nous serons en direct du sanctuaire de Lourdes pour vous faire vivre la messe de l'Assomption, messe internationale présidée par Mgr Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Ça va se passer sur la prairie du sanctuaire de Lourdes. Donc, nous serons en direct, Radio Présence, entre 10h et midi pour vous faire vivre cette messe. Tout de suite, on retrouve Clémence Roux. C'est le journal régional, journal de la mi-journée. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, une maladie qui touche les moutons et les bovins progresse dans le Tarn. Une vingtaine de foyers ont été repérés dans le département. La maladie est transmise par des petits insectes et peut avoir des conséquences importantes sur les troupeaux. Face à sa progression rapide, les éleveurs sont appelés à surveiller leurs animaux et à signaler les cas suspects. En Haute-Garonne, les camions trop lourds sont désormais mieux surveillés sur un pont très fréquenté au nord de Toulouse. Des capteurs installés sur la route permettent de peser les poids lourds pendant qu'ils circulent. Des caméras permettent ensuite d'identifier les véhicules concernés. L'objectif est de limiter le passage des camions en surcharge et surtout de protéger le pont sur le long terme. Et demain soir, un spectacle assez rare sera visible dans le ciel. Une éclipse solaire pourra être observée dans la région. Plusieurs rendez-vous sont organisés autour de Toulouse pour permettre au public d'en profiter. Mais attention, il ne faut jamais regarder directement le soleil pour observer l'éclipse sans danger. Il faudra obligatoirement porter des lunettes adaptées. Dans le Tarn-et-Garonne, les bateaux peuvent de nouveau circuler sur une partie du Tarn à Montauban. L'écluse de Sapiacou vient de rouvrir après plus de 100 ans. Une réouverture qui permet de franchir à nouveau ce passage en bateau. La ville souhaite ainsi développer les balades sur l'eau et attirer davantage de visiteurs autour du Tarn. Autre phénomène remarqué cet été, les tigres du Platane sont particulièrement nombreux en Béarn et en Bigorre. Derrière ce nom se cache en réalité un tout petit insecte blanc qui vit dans les platanes et se nourrit de leurs feuilles. Il peut tomber des arbres et venir se poser sur la peau, ce qui peut être désagréable, mais malgré son nom, il ne présente pas de danger important pour l'être humain. Et enfin, direction Lourdes, pour terminer avec un peu de culture, l'exposition Carnet de voyage ouvre ses portes demain au 14 chaussée du Bourg. Les œuvres de Gabriel Drevin et de Clara Fromont seront présentées jusqu'au 16 août. Le vernissage aura lieu demain à partir de 18h. L'exposition est gratuite et ouverte à tous. Voilà, fin de ce flash. Bonne journée à l'écoute de Radio Présence.
Merci Clémence Roux, bonne journée également. Retour de l'info à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Dans ce Présence Midi, dans les prochaines minutes, on va partir sur les chemins de Saint-Jacques avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes que j'aurai sur notre antenne aux alentours de 12h50. Mais avant de partir sur les chemins de Saint-Jacques, on va gravir les sommets avec l'histoire de ce tarbé Michael Genet qui a 35 ans. Une histoire qu'il va nous raconter au micro d'Androse Jankovic, entretien enregistré au mois de juin dernier.
Présence, place du Capitole, 97.9.
Et aujourd'hui, Anne-Rose Jankovic, vous allez nous parler d'une aventure à la fois humaine et sportive.
Et oui, c'est le genre d'aventure que j'aime et qui a toute sa place sur notre antenne parce que c'est une aventure qui a du sens. Ça s'appelle Ensemble au sommet et c'est l'histoire d'un tarbé, Michael Genet, 35 ans, un homme un chouïa hyperactif peut-être, mais en tout cas un homme passionné de sport et de montagne et surtout passionné par la vie et la vie avec les autres. Michael Genet aime les défis et puis il aime les partager. Alors une fois qu'il a gravi l'Everest, eh bien cet homme-là a eu l'idée un peu dingue de gravir d'autres sommets en embarquant dans ses escapades des personnes en situation de handicap, et oui, rien que ça. Et puis puisqu'il avait envie de le faire, eh bien il l'a fait, on a affaire, vous l'avez bien compris, à quelqu'un qui va au bout de ses projets. C'était l'été dernier, au pic du Midi de Bigorre, 150 personnes avaient suivi ce cortège peu banal, une prouesse humaine, sportive et logistique qui a donné à notre aventurier l'envie de continuer. Michael Genet repart dans quelques jours en direction du Mont Blanc, ils seront deux, mais surtout, il a décidé de relever le défi d'atteindre le sommet du Kilimandjaro à la fin du mois d'août. C'est donc un équipage de 17 personnes qui emmène à plus de 5000 mètres d'altitude trois personnes en situation de handicap, Gilda, Clément et Tom. Gilda et Clément sont mineurs. Alors je suis sûre, Gilles, que vous vous demandez, mais pourquoi Michael Genet fait-il donc ça? Pourquoi ne reste-t-il pas tranquillement dans les montagnes bigourdanes? Eh bien, c'est aussi la question qui me titillait et que je suis allée lui poser à l'occasion d'une conférence de presse qu'il menait il y a quelques jours.
Bah, en fait, Ensemble au sommet, c'est le nom d'un projet qui a débuté donc il y a deux ans maintenant, suite à une aventure incroyable qui m'a été permis de réaliser avec la Concagua et donc l'Everest, qui a permis de mettre en lumière grâce à beaucoup de gens qui ont suivi cette aventure. Et donc, le côté inclusif a été le maître mot de cette expédition, puisqu'on a permis à beaucoup de personnes d'accéder au Pic du Midi l'année dernière. Et donc, Ensemble au Sommet 2, aujourd'hui, qui est porté donc par l'association Élan Bigourdan, est un projet plus que jamais, va reprendre les valeurs inclusives de la première édition, mais ce coup-ci en emportant des personnes en situation de handicap beaucoup plus haut en altitude.
Alors, ces personnes en situation de handicap, elles sont choisies comment ? Elles sont déjà sportives, vous les connaissez depuis longtemps. Comment elles arrivent dans le giron de Ensemble au Sommet ?
Eh bien, je dirais que elles sont venues pour le coup, ces trois-là viennent d'horizons différents, puisque certains étaient déjà dans mes connaissances depuis longtemps, d'autres que j'ai rencontrés grâce à Ensemble au Sommet première édition, et la petite Gilda, donc que j'ai rencontrée un peu croisée sur quelques événements handi, et aujourd'hui qui est pour moi un peu notre rayon de soleil, notre mascotte, comme on pourrait dire aujourd'hui, parce que elle porte à elle toute seule le sourire et la volonté, l'énergie de toute cette équipe qui n'a qu'une envie, c'est d'être au départ dans quelques semaines donc pour la Tanzanie et pour Tom et moi pour le Mont Blanc la semaine prochaine.
Alors, pourquoi vous faites ça, Michael ? Parce qu'au fond, on pourrait se dire, le défi, ce sont déjà de grands défis sportifs. Pourquoi se rajouter peut-être des difficultés, en tous les cas, ce défi-là, ce pari-là, d'emmener des personnes en situation de handicap avec certainement beaucoup de joie, mais aussi tous les risques ou toutes les précautions que ça suppose ?
Oui, c'est le mot précaution. C'est un mot qui est difficile et qui est même, je pense, pour beaucoup de gens assez difficile à entendre. Pour moi, simplement, la genèse de cette volonté que j'ai au fond de moi, c'est simplement de dire qu'aujourd'hui, après avoir réalisé par exemple des ascensions comme l'Everest et la Concagua, je me suis dit que le Kilimandjaro, c'était une aventure que je pouvais peut-être permettre d'accéder à des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre part à ce genre d'expédition. J'ai vraiment envie de permettre à des gens qui, dans la vie, ne sont pas souvent mis en lumière par rapport à des accidents de la vie ou des problèmes de naissance. Et moi, je trouve ça magnifique aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière cette cause, de dire moi aujourd'hui ma passion, ce qui me motive au quotidien, c'est ce dépassement de soi qu'on retrouve dans les sports d'endurance, mais de leur permettre de vivre ça, parce que c'est pas seulement que du sport, c'est une aventure humaine, c'est un voyage, et ce voyage là comme tous les gens autour de nous aujourd'hui en parlent, mais vous devez entendre ce mot là souvent, c'est une préparation, c'est un engagement. Quand on se lance dans une telle aventure, on prend avant tout part pendant des mois et des mois une préparation mentale qu'on fait inconsciemment, et c'est ce que je veux permettre à des gens qui n'ont jamais accès à ces choses là finalement. Voilà, une petite sortie pour eux, c'est une aventure. Ben là, ça va être vraiment une vraie aventure, mais au sens propre, même pour l'invalide.
Voilà, alors ça, l'aventure, effectivement, elle se joue aussi. Vous n'y allez pas seul, hein, vous n'embarquez pas ces personnes en situation de handicap tout seul, vous partez vraiment tout un groupe. Donc ça veut dire que tout ce groupe-là qui part avec vous, ce sont des personnes qui ont fait le pari aussi, d'abord d'arriver au sommet et de prendre le temps dans leur vie de tous les jours, de se préparer, de s'entraîner depuis des mois pour être de l'aventure.
C'est ça, j'ai essayé de constituer une équipe autour de moi. Dès le départ, on avait un socle, hein. Bien sûr, je ne serais pas parti tout seul sur cette idée-là. On cite souvent mon nom, mais je veux rétablir une vérité, c'est-à-dire que derrière mon nom, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, tout comme pour Ensemble au Sommet 1. Je n'ai pas été tout seul. Bien sûr, pour l'Everest et la Concagua, c'était le cas, mais je veux dire, il y a eu toute une logistique qui a été organisée derrière. Ce nouveau projet, nouvelle association, des nouvelles personnes aussi, mais aussi des personnes qui ont participé à Ensemble au Sommet 1. Et donc, ces personnes-là ont fait partie du socle, le point de départ qui me permettait de croire à la réalisation de ce projet. Et semaine après semaine, ça a été des nouveaux défis qui permettent d'assurer, comme vous le dites à juste titre, tout ce qui va être assuré, une logistique, de la sécurité, à la fois sur le plan technique, médical, c'est un vrai défi. Je comprends aussi tous les jours pourquoi on n'a pas ce type de projet majeur tous les jours dans notre actualité. Mais c'est aussi ce que je trouve excitant dans un projet comme ça. Moi, j'aime aussi dire que être au départ, c'est déjà un sommet. Comme je dis, aujourd'hui, je l'ai répété durant cette conférence, c'est vraiment important. Oui, aujourd'hui, être au départ, c'est déjà en soi, pour nous, le départ de l'aventure, et on verra où c'est que cela nous mène.
Alors, au total, il y a combien de personnes qui sont mobilisées ? Alors, celles qui partent, mais celles qui sont autour et qui ne partent pas, mais qui sont indispensables dans les préparatifs et dans le bon déroulement des choses ?
Alors, là, si on fait un peu de mathématiques, on a trois personnes en situation de handicap qui partent vraiment, eux, ils sont, le projet leur est dédié. On a deux enfants en plus, donc deux mineurs, en tout on a quatre mineurs et donc deux en situation de handicap. Donc on peut dire qu'eux vont nécessiter un accompagnement et une assistance. À l'inverse, les autres personnes qui sont là, donc dans l'aventure, on est 17, et ces 17 personnes sont là dédiées pour venir accompagner donc ces personnes.
Néanmoins, il faut une logistique autour de ces personnes-là.
Voilà, et donc pour cette logistique-là, on a constitué différents pôles. On a justement un pôle logistique, on a un pôle médical, et on a toute une équipe autour. On a une équipe en France qui nous a beaucoup accompagnés, qui ne sera pas au départ, mais qui nous a aidés pour la partie financière, pour la partie associative et tout ce qui peut être papier, administratif. Et on a une équipe locale sur place, c'est indispensable et obligatoire aujourd'hui de toute façon. On a dû se référer au règlement du parc national du Kilimandjaro, et on a une grande équipe qui nous attend de guides et d'accompagnateurs.
Voilà. C'est quoi le plus difficile quand on prépare un projet comme celui-ci qui paraît quand même un petit peu fou?
Pour moi, honnêtement, c'est des mots qui sont difficiles pour moi à exprimer aujourd'hui, parce que je suis encore en plein cœur, même si je pense que le plus gros est derrière maintenant. Moi, comme je le dis souvent là aujourd'hui, moi, à partir du moment où c'est que tout le monde aura ses fesses dans l'avion à la fin du mois d'août, je serai soulagé et même si c'est déjà plus ou moins acquis, je veux dire, mais c'est déjà pour moi le travail accompli. Pour moi, ça a été difficile parce que c'est la vie personnelle, elle est là. J'ai une vie professionnelle aussi, évidemment, à tenir. Et ça, c'est de l'associatif, c'est du temps que je donne en plus. Et c'est ce que j'essaie de faire comprendre quand on me pose ce genre de questions, c'est que c'est le choix qu'on fait tous dans nos vies ou pas. Il y a des gens qui vont vous répondre, moi, j'ai pas le temps. Ben, moi non plus, j'ai pas le temps, mais je le fais.
Pardon, mais vous faites quoi dans la vie?
Alors moi, j'ai
à part mener des projets fous.
Honnêtement, ça pourrait vous paraître difficile à croire, mais je suis chef d'entreprise. En même temps, je suis salarié à temps plein, je suis cadre chez Daher, donc dans l'industrie aéronautique, avec un poste à responsabilité. Et j'ai une vie très chargée aujourd'hui, et je suis également adjoint au maire de Tarbes, donc j'ai beaucoup de casquettes aujourd'hui, et c'est la vie qui m'a mis face à tout ça. L'actualité et les choix que j'ai fait m'ont permis de me lancer sur plein de choses, mais en soi, ça ne remet pas en question les engagements que j'avais pris sur ça. Ça m'a juste permis d'être aujourd'hui focus à 100% pour mener ce projet jusqu'au bout.
Alors maintenant, on va essayer de se mettre vraiment de mettre des images dans la tête de nos auditeurs. Concrètement, comment on fait d'un point de vue très matériel et logistique pour emmener trois personnes en situation de handicap? Peut-être qu'il faut dire quels sont les handicaps qu'elles portent, mais en haut du Kilimandjaro, ça veut dire quoi? Des joëlettes, du matériel, des fauteuils? Enfin, comment vous faites concrètement?
Alors, concrètement, aujourd'hui, en quelques mots, c'est assez simple. On a deux athlètes qui sont plutôt autonomes, qui sont hémiplégiques. Hémiplégique, c'est un grand mot dans le domaine du handicap, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas tout à fait la validité de tous leurs membres, notamment inférieurs pour Thomas et pour Clément, mais aussi supérieurs. Et on a Gilda qui a un défi un peu plus différent, puisqu'elle a une motricité qui est beaucoup plus complexe et qui nécessite une assistance. Et donc nous, le premier défi qu'on a voulu répondre, c'est à celui-ci. C'est un défi moteur, c'est essayer de pas lié à ça. Donc Clément et Thomas ont l'avantage de pouvoir eux se rendre jusqu'au sommet, je le pense, en tous les cas avec une belle préparation physique qu'ils ont déjà entamée il y a de nombreux mois. Pour Gilda, c'est plutôt logistique, comme vous avez parlé de fauteuil. Bah oui, on a choisi de collaborer avec Lipamat, donc un fournisseur de fauteuils adapté pour le tout terrain, notamment l'Hippocampe Marathon, qui est un célèbre fauteuil pour ce genre d'expédition là qu'on a sélectionné non pas par hasard, mais parce que c'était conforme au terrain qui nous attend. Et après, il y a l'autre défi, c'est le défi médical. Et le défi médical, pour le coup, celui-ci, il a été extrêmement restrictif pour nous. Donc on a pris part à des tests hypoxie, on a aussi sur place prévu des bouteilles d'oxygène. C'est un petit peu plus de 5800 mètres d'altitude, le Urupic comme on l'appelle, et donc forcément le risque pour moi, il est numéro un, c'est l'hypoxie, parce que c'est un risque invisible, une cheville qui se foule, on le voit tout de suite, on l'identifie et on redescend si nécessaire. Le test hypoxie, il peut être plus invisible, mais notamment chez les mineurs, qui peut donner un défi complémentaire, et pour nous c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus. Et on a plusieurs voies je dirais de repli, des scénarios qu'on a étudiés tous en cas de problème chez du valide comme de l'invalide, pour pouvoir garantir la sécurité de tous les participants jusqu'au bout.
Est-ce qu'il y a une chose qui vous fait peur dans cette aventure? Parce que vous avez l'air d'être déjà un peu parti à fond, sûr de vous, sûr de la réussite aussi de ce projet. Est-ce que il y a un point d'inquiétude, de doute ou de vigilance particulier?
Alors, de peur, absolument pas, parce que sinon je me serais pas lancé là-dessus. J'ai toujours cru que c'était possible. Ça n'a pas été toujours facile de convaincre les gens autour. Faut être sincère. Je peux comprendre que les gens aient des doutes quand ils entendent parler d'une telle expédition. Il a fallu convaincre des parents. Faut aussi imaginer que des parents nous confient leur enfant mineur en situation de handicap. C'est assez fou. Donc, faut imaginer la relation de confiance qu'on a pu créer ensemble. Et c'est ce que je trouvais beau dans cette aventure. Et moi, je sais que là-dessus, j'aime à croire que l'équipe qu'on a constituée est tous soudée autour de cette idée-là, d'être au départ, encore une fois. Mais après, non, l'envie pour moi, c'est simplement que tout le monde profite à mesure de ce qu'il est venu chercher. Et je sais que l'équipe qu'on a constituée est venue chercher un partage humain avant tout, plus qu'un sommet, mais on va dans tous les cas voir de beaux paysages, découvrir une autre culture et vivre une expérience formidable.
Alors je sais que vous êtes très pris, donc je vais bientôt vous libérer, mais j'aurai encore plein d'autres questions. Mais quand même, on va terminer avec l'ancrage local. Vous êtes tarbé, vous êtes entouré de personnes des Hautes-Pyrénées qui aiment les montagnes, qui aiment la Bigorre. C'est un peu votre terrain de jeu, en tous les cas, c'est votre terrain d'entraînement. Et c'est aussi votre terrain de partenariat. Ça, c'est peut-être important, ce partenariat avec principalement des partenaires locaux. Ça a du sens aussi, j'imagine. Vous parliez tout à l'heure de valeurs humaines, mais j'imagine que ça a du sens aussi pour vous d'emmener quelque part un petit peu toutes les Pyrénées et les acteurs locaux là-bas en haut du Kilimandjaro.
Oui, je vous cache pas qu'aujourd'hui, quand les gens me croisent et me reconnaissent, c'est souvent juste parce que j'ai fait l'Everest. Moi, ça m'a pas changé ma vie particulièrement. Je reste un tarbé qui, comme vous dites, utilise notre terrain de jeu qui est formidable. Mais avant tout, ça a été un crédit qui m'a été donné dans le regard des autres personnes. Aujourd'hui, quand on va démarcher des partenaires et que les gens se disent, déjà, il y a eu quelque chose qui a été réalisé l'année dernière. Après, qu'on emmène des personnes en situation de handicap qui sont issues du territoire, ça a été fort de sens. Et je pense que beaucoup de sociétés ont voulu associer leur image à un projet inclusif. Et je pense qu'ils ont tous compris que le projet, c'était surtout l'aventure humaine et mettre en lumière ces trois personnes-là. C'est pour ça que je suis fier de répondre aujourd'hui à ces interviews-là. Mais j'espère qu'à notre retour, les gens porteront un regard différent et permettront à des personnes comme Gilda, à d'autres personnes comme Gilda, Clément et Tom, de prendre part à ce genre d'aventure dans le futur.
À propos de ces partenaires, on peut quand même aussi signifier que grâce à eux, l'aventure d'un point de vue financier est possible aussi.
Tout à fait, parce que comme je le répète, c'est une aventure qui a été à 100% gratuite pour ces personnes-là. On a même là encore aujourd'hui, on creuse pour essayer de fournir même des petits à côté, les assurances, des équipements, parce qu'il y a toujours des besoins particuliers là-dessus. Et aujourd'hui, on ne s'est pas intéressé aux moyens qu'avaient les parents ou les familles. On a d'entrée dans le projet considéré que c'était un projet offert pour eux. Et donc ça a été, vous imaginez que ça a un coût énorme. Et donc tous les bénévoles ont œuvré pour permettre de faire connaître ça et participer à mes côtés à obtenir des fonds pour avoir la logistique et les billets d'avion et un tas de trucs qui permettront à Gilda, Tom et donc à Clément d'être au départ de cette fabuleuse aventure.
Donc du 21 au 30 août, Kilimandjaro, comment on vous suit depuis la Bigorre ?
Alors comment on nous suit depuis la Bigorre, on a bien sûr créé depuis hier les réseaux sociaux, donc des pages sur tous les réseaux sociaux connus qui s'appellent Ensemble au Sommet 2, mais bien évidemment par notre partenaire privilégié qui est notre association, c'est le groupe 65 qui est un vrai puits d'informations au quotidien pour les gens qui habitent les Hautes-Pyrénées. Et donc dessus seront mis des informations un peu exclusives avec des échanges, des petites interviews, des petits moments de vie qu'on va partager durant toute la préparation. Et puis je l'espère, si les conditions nous permettent là-bas en termes de wifi, de pouvoir aussi envoyer des petits moments de vie là-bas durant toute notre évolution sur la Tanzanie.
Vous viendrez nous raconter ça au micro de Radio Présence à la rentrée.
Avec grand plaisir, l'histoire sera belle dans tous les cas.
Comment expliquez-vous que cette histoire-là marche et qu'elle suscite tant d'enthousiasme ?
Eh bien, en fait, tous ceux qui connaissent le sanctuaire de Lourdes et la manière dont on y accompagne les personnes malades ont déjà compris, j'en suis sûre. Michael Jeunet et ses équipiers ne cherchent pas la gloire, ils n'ont pas d'ambition personnelle, ils ne sont pas là pour soigner leur ego. Ils sont tout simplement motivés par l'envie de relever et de partager un défi. Et puis, ils ont dans le cœur la conviction que les exploits sportifs, notamment, sont accessibles à tous, y compris aux personnes handicapées. Ils sont tout simplement ce que j'aime appeler des hommes et des femmes de bonne volonté.
Alors Anne-Rose, vous nous parlez de Michael Jeunet et de son équipe. Alors, vous les avez rencontrés à l'occasion donc de cette conférence de presse menée il y a quelques jours. Mais qu'en est-il des personnes en situation de handicap qu'ils amènent ? Est-ce que vous avez pu les rencontrer et comment se préparent-ils à cette aventure ?
Vous avez raison, Gilda, Clément et Tom étaient présents lors de cette conférence de presse. Et puis c'est bien normal parce que cette aventure, elle ne se construit pas autour d'eux, mais avec eux. C'est eux qui donnent tout son sens à cette expédition. Alors comment se prépare-t-il ? Que s'attendent-ils à vivre ? J'ai prêté mon micro à Giuseppe Paolucci qui est allé leur poser précisément ces questions.
Bonjour, c'est Giuseppe. Je suis stagiaire pour Radio Présence. Aujourd'hui, je suis avec Gilda. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Bonjour, enchantée. Alors moi, je m'appelle Gilda, j'ai 15 ans et je suis paratriathlète au club de Tarbes.
Donc tout à l'heure, tu nous disais qu'il y a 2 ans, tu étais en fauteuil roulant. Et tu nous disais aussi que la limite, c'est dans la tête. Donc toi, dans cette génération où les adolescents, ils préfèrent rester dans leur canapé ou chez eux, toi, comment t'as fait à te remotiver et à dépasser tes limites ?
Alors, merci pour la question déjà. Donc, je vais ramener ça un peu aussi au projet. Donc, le projet s'appelle Ensemble au sommet. Donc, chacun a son sommet, en fait. Chacun a un objectif qu'il essaye d'atteindre. Maintenant, moi, mon objectif, c'est des objectifs sportifs que je n'aurais jamais cru atteindre il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, mon objectif, c'était de me relever parce que, à cause de toutes les opérations et ma maladie qui n'est vraiment pas connue, donc qui s'appelle piezo 2. En fait, on sait vraiment pas comment, enfin, on savait pas comment je pouvais m'améliorer. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du triathlon. C'est une idée folle, mais je me suis dit, je vais repousser mes limites et je vais le faire, je vais y arriver. Donc, il y a pas longtemps, j'ai fait mon premier triathlon et au fur et à mesure d'aller aux entraînements, mon corps a pris des muscles et j'ai gagné en endurance et j'ai réussi à passer d'un fauteuil à un déambulateur et à passer d'un objectif qui était de me relever à maintenant gravir le Kilimandjaro. Donc voilà. Merci.
Je suis avec Clément. Clément, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Clément Talbot. J'ai 15 ans et je fais beaucoup de sport, notamment du tennis de table en compétition en valide et en handisport.
Et le Kilimandjaro, ça se monte pas du jour au lendemain ? Donc comment vous allez vous préparer avec tout le groupe d'ici fin août avant la montée?
Avec le groupe, on va faire plusieurs randonnées pour se coordonner. Donc 4 randonnées majeures prévues. La première vraiment pour se caler entre nous, pour bien se coordonner, qui ne sera pas publique. Et la troisième sera publique, qui sera ouverte à tout le monde. Tous ceux qui voudront venir pourront.
Et toi, personnellement, quels sont tes entraînements pendant la semaine, que ce soit pour ton sport, donc qui est le ping-pong, ou même pour la montée maintenant pour le Kilimandjaro?
Pour le ping-pong, j'ai 2 entraînements par semaine, plus des compétitions le week-end. Et pour le Kilimandjaro, je fais du renforcement musculaire et je fais du vélo tous les week-ends et de la course à pied. Merci.
Donc je suis maintenant avec Thomas. Est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Thomas Varven, j'ai 39 ans. 39 ans, voilà, j'ai eu un accident de la circulation en vélo, donc à l'âge de 12 ans, en 99. Et je me suis retrouvé hémiplégique, donc complètement paralysé à gauche. Et voilà, et puis petit à petit, le sport, la détermination m'ont permis de quitter mon fauteuil roulant et puis petit à petit de repousser mes limites. Et puis, très souvent, on m'a mis des barrières en me disant « tu pourras pas faire » et clairement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé à repousser ces barrières qu'on me mettait justement. Et voilà.
Et maintenant, cette pression pour le Kilimandjaro, il y a une pression mentale et même pour le Mont Blanc avant. Comment tu gères ça avant la montée?
Oui, c'est sûr. Alors, essentiellement, les entraînements ont doublé, voire triplé là depuis 6 mois. Je ne fais pas un jour sans faire du sport, sauf récupération. Mais après, je suis accompagné également à côté. J'ai une coach mentale. J'ai une psychologue aussi pour les moments de down, un petit peu de dur. Et puis Michael qui pilote le projet. On s'écrit, on s'appelle quasiment tous les jours. Enfin, très très souvent en tout cas. Et après, moi, je ne prends pas le départ si je ne suis pas en haut. Hein. Donc l'objectif, c'est d'être en haut avant tout. Et voilà, et puis de faire ce projet magnifique. Et puis montrer l'exemple à mon petit garçon que rien n'est impossible et que c'est pas parce que j'ai une jambe qui fait un peu ce qu'elle veut que je peux pas y arriver, quoi.
D'accord, merci beaucoup et bonne chance.
Merci à toi.
Alors Anne-Rose, voilà pour ce tour d'horizon des sommets.
Oui, nous avons bien de la chance en Bigorre, nous avons de superbes montagnes, mais nous avons surtout de belles initiatives qui prouvent que les gravirs est accessible à tous, ensemble au sommet. C'est un projet ambitieux mais réalisable parce qu'il est porté par des personnes qui ont les pieds sur terre et qui ne s'interdisent aucun rêve. Alors soutenez-les, suivez-les, c'est absolument édifiant.
Voilà, ensemble au sommet. Merci beaucoup Anne-Rose Jankovic.
Merci Gilles.
Présence dans la vallée de la Garonne. 97.9.
Mes regrets sincères, vraiment désolé pour toi. pavé de galère. Mais cette fois, ça sera sans moi. Personne ne t'attend là-bas. Plus de musique, bar désertique. Avec des fantômes que tu ne vois pas. Coupe légendaire, croisée des mystères. Mais maintenant, sans.
Les chemins de Saint-Jacques avec le GRR 101. Un nouveau chemin de Saint-Jacques a été créé. Ce chemin prend son départ à Nogaro.
Oui, exactement. Donc aujourd'hui, cap sur le GRR 101, le chemin de Lourdes qui relie Nogaro à Lourdes. C'est ce que je voulais aborder avec vous dans cette chronique.
142 km entre Nogaro et Lourdes. Et dans cette chronique, on va s'intéresser aux 18 derniers kilomètres. C'est entre la ville, le village d'Azerex et Lourdes.
Exactement, donc ce circuit effectivement qui relie Nogaro à Lourdes, alors c'est un circuit qui en fait relie la voie du Puy, la voie d'Arles et celle du Piémont, donc le GR 78 du Piémont qu'on connaît bien. Il y a un travail de fait effectivement pour connecter le GERS aux Hautes-Pyrénées. Des hébergements ont été rajoutés à Saint-Lézé et à Azerex pour les randonneurs et les pèlerins. Et effectivement, on va zoomer un peu sur cette partie Azerex-Lourdes, voilà, qui est la dernière partie, les 18 derniers, enfin, les 18 derniers kilomètres. Pardon.
Alors justement, sur ce parcours, qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer, j'imagine, la chaîne des Pyrénées ?
Complètement, voilà. C'est du coup, en fait, on quitte la plaine argileuse d'Azerex et on a une montée progressive vers Lourdes, donc ça se fait assez en douceur, hein. C'est abordable pour à peu près tout le monde, c'est pas extrêmement technique. Et on va traverser des plaines, des bois, les vallées, et surtout avec cette vue en fait fabuleuse sur la chaîne des Pyrénées. Donc ça, c'est la partie la plus belle. Et on passera par Azerex, par Ossun, Bartrès, et pour arriver au final à Lourdes.
Pour arriver à Lourdes, entre Bartrès et Lourdes, c'est probablement le même chemin qu'a emprunté Bernadette, le chemin de Bernadette.
Tout à fait, c'est celui-là, c'est vraiment Bartrès-Lourdes, c'est l'étape qui marie la spiritualité avec la randonnée. Voilà, ça c'est parfait pour ceux qui sont en quête de sens et d'émotion. C'est effectivement 3-4 kilomètres, voilà, mais c'est le même chemin que les gens utilisent dans l'autre sens pour faire Lourdes-Bartrès, pour aller là où vivait Bernadette quand elle était à Bartrès.
Et lorsqu'on arrive à Lourdes, où peut-on se faire tamponner la crédentiale ?
Alors, il y a deux lieux. Le premier lieu, en fait, au sanctuaire, au centre information. Là, on peut se faire, effectivement, apposer le crédentiel sur son petit passeport. Et sinon, il y a aussi une halte jacquaire, en fait, dans le centre-ville de Lourdes, entre l'office de tourisme, en fait, derrière l'office de tourisme, pas très loin du marché, dans une petite ruelle, voilà, dont j'oublie le nom, mais c'est pas très loin du marché.
Voilà, on a parlé du GR 101, donc ce nouveau chemin de Saint-Jacques entre Nogaro et Lourdes, hein, qui a été créé tout récemment. Alors on n'est pas obligé d'être un pèlerin de Saint-Jacques, on peut également se balader en famille le week-end. Hein.
C'est ça, c'est un 18 kilomètres qui sont... Alors ça demande quand même un peu de conditions physiques, mais c'est pas excessif. Il suffit de partir avec un sac à dos, de quoi se rafraîchir, de l'eau, un petit pique-nique, et voilà. Ça a été inauguré récemment, le samedi 21 juin 2025. Voilà, avec une arrivée au château fort, musée pyrénéen de Lourdes. Mais oui, ça peut être une jolie balade à faire en couple, en famille ou même tout seul.
Avec Laurent, on vous a amené donc sur les chemins de notre territoire autour de Lourdes. Un grand merci, Laurent de l'Office de Tourisme. Et on se dit à une prochaine fois sur Radio Présence pour une nouvelle chronique balade en pays de Lourdes.
Merci Gilles et à bientôt à Lourdes.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Présence à Saint-Bertrand de Comminges 94.1.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Désarmer la technique, servir la paix, la politique comme responsabilité préventive.